Retour à la ferme Lalande. 30e jour du 2e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. Les sentinelles le disent toutes. La pluie de météorites commencera après le crépuscule solaire. Les seins des Géminides approchent, les volets du dôme de la ferme se déploient et les drones se massent devant le sas pour venir se mettre à l'abri. L'étanchéité de la ferme tiendra-t-elle? J'ai préparé une caisse de survie pour Trim. Mais pour tous les autres habitants de la ferme, je ne peux rien. Le soleil a quitté la place. Sous le clair de terre, les plaines blanches se transforment en lacs de saphir. Au loin, la crête d'Ankh semble reculer et s'effacer. Au-dessus de moi, les étoiles se brouillent, puis elles perdent leur fixité et, l'une après l'autre, elles se mettent à scintiller. Orion, d'abord, vibre imperceptiblement. Puis c'est le tour de l'éclatant Sirius, de la lanterne orangée d'Aldébaran, de Bételgeuse et de toute la Voie lactée, jusqu'à la constellation d'Andromède, jusqu'à l'étoile polaire Delta de la Dorade. Pendant un temps très bref, l'atmosphère incroyablement ténue de la Lune s'épaissit à mesure que sa peau blafarde dégaze sous les impacts, et une queue de sodium s'allonge dans le vent solaire. Lors de la dernière tempête, j'ai vu, à moins de 50 mètres de l'entrée de la ferme, tomber un météore qui a envoyé un panache de fumée à plus de 30 km de haut. La poussière a d'abord roulé en vagues circulaires depuis le centre jusqu'au bord du cratère d'impact. Elle s'est élevée pour former un bol parfait avant de crouler et de refluer vers le centre. Se heurtant à elle-même comme un point qui se ferme, elle a jailli en une seule goutte ronde qui est lentement retombée et s'est compactée en un petit piton central. Le ressenti géologique était puissant, mais l'étanchéité de la ferme a tenu. Il est arrivé qu'elle ne tienne pas. La première décompression de la ferme Lalande était due à un tremblement de lune resté célèbre, le Moon Quakenla. La seconde à une chute de météorites. Mais c'était au début de la création de la ferme, aussi les pertes biotiques ont été limitées. Aujourd'hui, une décompression explosive condamnerait un écosystème en pleine maturité. Toute la faune et la flore de la ferme Lalande seraient projetées dans le vide. Outre le drame biologique, ce serait une perte financière colossale pour Mute. Sans parler des problèmes d'approvisionnement auxquels serait confrontée la cité, en attendant que je reconstitue, pour la troisième fois, un écosystème stable. Si des volets anti-impact protègent aujourd'hui le dôme contre les météorites, je me permets de rappeler qu'il est fissuré au niveau de la côte 237. Il faudrait, après avoir remplacé la dalle, mener des investigations pour connaître la cause de cette fissure. Il est possible que les fondations même du dôme de la ferme aient un problème structurel. Les matériaux vieillissent, on le sait. Et à la surface, ils vieillissent plus vite qu'ailleurs. Le sol, lui, bouge inexorablement. Il mute et se transforme, comme tout. La tempête est imminente maintenant. Je sais qu'au cœur du jardin, les sensitives ont refermé leurs longs doigts verts et que les chenilles se sont réfugiées à l'envers des feuilles. Les grands-ducs sont serrés dans leur tronc, une aile déployée devant leurs yeux fixes. Les grenouilles, elles, s'agitent dans la mare. J'entends monter vers moi leurs chants perlés, ronds et tremblants. Les êtres vivants sentent ces choses-là. Premier jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. La tempête a commencé à la 20e heure. Trim sur mes genoux, je l'ai regardé depuis l'observatoire supérieur. C'était un risque, mais la ferme est notre navire et les capitaines doivent se tenir à la barre. J'ai ouvert la caisse de survie de Trim à mes pieds. Les étoiles filantes traçaient dans le ciel noir de longs fuseaux d'un vert fulgurant et s'abattaient en gerbe sur la mer des îles qui a d'abord paru moussée. Puis elle s'est soulevée, ondulant comme le dos d'un chat en colère. Elle s'est couverte de roues d'écume grise au bord desquelles les mini-colas, arrachés, mouraient en poignées d'étincelles bleu vif. Je caressais Trim qui ne disait pas un mot, mais je le sentais contracté sous mes doigts. Dans les lueurs chlorées des Géminides, son pelage noir brillait comme l'argent. Loin sous nos pieds, le manteau lunaire craquait et grondait. Tout autour de nous, sur les volets déployés, les météores claquaient sans un bruit. Les chocs se diffusaient à travers le métal, le dur à glace, et enfin dans l'air ambiant, en longs gémissements. De mon observatoire, j'entendais distinctement les branchettes du bouleau tomber en pluie sur l'herbe. Il fait toujours ça. Les plantes étaient effrayées. j'ai réussi à convaincre Trim qu'il fallait descendre les rassurer. Je leur ai mis les gymnopédies de Sati, un peu plus fort que d'habitude. Sati est excellent contre les angoisses végétales. Les animaux l'apprécient moins. Trim et moi avancions lentement dans la nuit de la ferme, sous les frondaisons encore dépouillées par l'hiver. Je sentais pulser sous mes pieds le monde inversé, l'espace dense et obscur des racines, des rhizomes, des vers et des mycéliums qui échangeaient des informations alarmées. Elle remontait avec la puissante poussée de la sève jusqu'à 10, 20, 30 mètres au-dessus de l'humus. Trim et moi avons salué le noyer et le flamboyant. Nous avons contourné l'étang et plongé dans l'ombre de la forêt avant de remonter vers le cœur du jardin. Au-delà du ressaut, le chèvrefeuille et le jasmin étaient peureusement enlacés. Nous entendions leurs lianes se froisser doucement les unes contre les autres. Coupant par la pelouse des familles, nous nous sommes enfoncés parmi les lilas. Le cœur de Trim battait de façon désordonnée, l'air vibrait comme une corde trop tendue tandis que les géminides montaient en puissance. Les gymnopédies égrenaient leurs notes légères sur cette basse infernale. Trim et moi sommes passés devant les oies dont j'ai deviné les corps enchevêtrés dans l'obscurité. Blotties les unes contre les autres, elles faisaient une tache d'un blanc cendré. Je ne me suis pas aventurée à les caresser, elles m'auraient pincée. Mais je leur ai parlé tout bas. J'ai vu leurs yeux luire et leurs longs cous convulsés. Plus loin, le champ de lin était noir et paisible. Je me suis allongée à même les sillons embués de jeunes pousses, Trim sur la poitrine. La suite bergamasque a succédé aux gymnopédies. J'ai dit à Trim de prendre patience, que d'ici quelques heures tout serait fini. Mais les heures sont longues dans la tempête. Trim s'est mise à ronronner. Je pense que c'était pour me rassurer. Quand le soleil artificiel de la ferme s'est levé, il a fait fuir les géminides. C'est une image de Trim, je l'ai notée car elle m'a plu. La tempête a cessé peu à peu et le ciel a retrouvé sa pureté fixe. À l'aube de la ferme, les premiers chants d'oiseaux ont fait bâiller Trim. Puis il y a eu le bourdonnement des abeilles et les froissements des couleuvres dans les joncs. Nous avons regardé les vols des oiseaux qui se croisaient au-dessus de nous dans la brume jusqu'à ce que celle-ci se soit dissipée. Une fois de plus, la côte 237 a tenu derrière son confinement. Je suis allée vérifier l'état de la membrane et de la ventouse. Mais la fissure a brusquement dépassé les 60 cm et, tout en s'allongeant, elle s'est enfoncée dans l'épaisseur du dur à glace. J'ai tenté de joindre le père de Sileki ainsi que l'orphelinat Jus. Mais ni l'un ni l'autre n'ont donné suite. Troisième jour du troisième mois de l'an 2325. Ferme la lande. Peu après l'aube solaire, j'ai reçu une visite. Il n'est pas rare que les pluies de météorites attirent les citadins sous-lunaires. Ils rêvent qu'un impact dégagera brusquement une veine de minerai coûteux, ce qui révèle une étrange ignorance de la géologie de leur planète natale. Mais l'avidité est en quelque sorte la passion première des citadins, avec les dieux, les robots, les stades et les procès. Si l'avidité altère la lucidité, elle n'empêche pas la prudence. Les apprentis mineurs patientent toujours jusqu'à la fin d'une tempête pour se risquer à la surface. Je m'attendais donc à voir remonter quelques aspirants millionnaires en quête d'un rover et de bons tuyaux, quoi que cela signifie. J'accorde volontiers ce qu'on me demande. Après chaque tempête, les bottes font une tournée d'inspection pour pointer les dégâts sur les installations. Un passager ne les gêne pas. Et puis, Trim aime se percher dans l'observatoire pour regarder à la lunette nos hôtes patauger en vain dans 10 mètres de poussière, une pelle à la main. Cependant, cette visite n'a rien à voir avec les minerais. Mon nouvel hôte est un aïeul de Grunerdoy. Je le connais un peu. Il s'appelle Ren Konstat, et je l'ai salué à l'enterrement de la mère de Sileki. Il s'est présenté au sas de la ferme avec naturel et m'a demandé avec le même naturel de l'héberger. Il paraît que son logeur de mute l'a envoyé habiter dans ce qu'il a appelé une cambuse. Forstor, je suis à peu près sûre du sens. J'ai cru comprendre que, faute de moyens, Ren Konstat ne trouve plus une paroi où accrocher son caisson. C'est l'expression consacrée. Sa situation m'a laissé songeuse. La Lune a longtemps eu pour principe de fournir à chacun le nécessaire selon ses besoins et le surplus selon sa contribution. Je me doute que Ren Konstat ne contribue plus à grand-chose. Il a toujours été paresseux, et l'âge l'a rendu presque aveugle. mais un logement n'est pas un surplus. Qu'on ne déniche pas un caisson décent à Mutte pour loger un vieil homme m'a déconcerté. Ce manquement au principe fondateur lunaire est contrariant. Le lucre n'est pas un bon guide pour une civilisation fragile. Rennes constate a pourtant eu droit à tous les soins nécessaires à son grand âge. À première vue, il n'y a pas une seule pièce de son corps qui soit d'origine. L'ensemble manque d'harmonie, mais semble solide. Les yeux sont même assez neufs. Mais son cortex visuel doit être irrémédiablement dégradé. Et le cerveau est le seul organe que la médecine ne remplace pas, puisque l'unicité de l'être en dépend. Rennes constate emporte partout un petit diffuseur d'oxygène attaché à un masque souple. Il n'y a pas de raison médicale à ça. C'est seulement une habitude qu'il a gardée d'avant sa greffe de poumon. Il prend dans ce respirateur une inspiration sur deux et lui confie un chapelet de jurons. Il emmène aussi partout le chat Trim sur ses talons. Trim s'est immédiatement attaché à lui, pour une raison qui m'échappe. D'habitude, il fuit tout ce qui a des pieds susceptibles de marcher sur sa queue. Il y a peut-être une autre raison que la pauvreté à la maltraitance immobilière dont Rennes constate est victime. Sa sociabilité. Il est possible que Rennes constate ait reçu différentes propositions de logement et qu'il les ait négociées de façon non recevable, ce qui finit par former une phrase bien compliquée pour dire que Rennes constate est odieux. En plus, il sent fort. Un mélange de sueur, d'urine et de kérosène. Toujours est-il que je lui ai offert de s'installer à la ferme. Il n'a plus l'âge de craindre les radiations. J'ai essayé d'avoir par lui quelques nouvelles de Sileki. Mais je n'ai obtenu que des gros mots. Il appelle Sileki sa « nièce » et il pense autant de mal d'elle que de tout le reste de sa famille. Il a pendu un hamac entre deux chênes et semble s'y trouver à l'aise. J'entends grincer les branches tandis qu'il se balance. Trim miaule.
« Les fruits trop mûrs ne font pas autant de bruit avant de tomber, d'habitude. »
Je lui dis de se taire. Rennes constate n'a pas, à la ferme, l'attitude pénible qu'il inflige aux citadins de Mutte. Il est venu vers moi d'un pas hésitant, posant ses pieds au milieu des touffes de plantains comme si chacun de ses pas faisait jaillir une écume verte. Puis il a exprimé ses besoins avec clarté, sans trop d'injures.
« Il me faut à manger, et surtout à boire !»
Il accepte sans rechigner mes corbeilles de fruits et de légumes. Il les épluche sans violence, les consomme sans gâchis, et suit les recommandations de Trim concernant les cultures vivrières. Trim ne supporte pas qu'on écrase une seule pousse de courge, surtout les butternuts dont il raffole. Il suit Rennes constate dans toutes ses promenades et lui détaille les obstacles du chemin pour pallier sa mauvaise vue. De mon côté, je me suis penchée sur les registres. J'ai appris que mon nouvel hôte est un antique terrien. Il n'en reste pas beaucoup. C'est même un ancien marin d'eau salée. Sa fiche signalétique est si vieille qu'elle porte dans un champ oublié un code-barre. Ce code-barre est cerné de vastes zones de silence. Il me fait rêver. De quelle symbologie descend-il? Où sont les scanners conçus pour le comprendre? Quelles sont ces bases de données devenues? La fiche dit aussi que Rennes constate a été plongeur en eau profonde. Quatrième jour du troisième mois de l'an 2325. Ferme la lande. Toujours aucune nouvelle de l'accord intercité contre les mini-colas qui luisent dans la nuit solaire. Elles sont tout en haut du mur de la lande maintenant. Il est dommage de ne pas au moins les arracher de la roche qui surplombe la cité de Mutte. Rennes constate, avec ses fémurs trop longs au-dessus de mollets inexistants, son nez interminable et sa calvitie sans défaut ressemblent à un échassier. Trim le compare à une cigogne, alors qu'objectivement sa silhouette est celle d'un ibis. Mais sa tête blanche et ses bras noirs donnent raison à Trim sur le plan des couleurs. Il paraît que ces variations de mélatonine étaient à la mode sur Terre, à l'époque de Rennes constate. Je suppose qu'on se distrait comme on peut d'une catastrophe en marche. D'après Trim, qui écoute avec patience ses discours, Rennes constate a été successivement gardien de baleines, pêcheur de méduses en mer des Hébrides, éleveur de tortues luttes et trafiquant de guano colombien. Trim et moi rêvons ensemble à des spectacles que nous ne pouvons imaginer. Des étendues d'eau plus profondes que le plus profond des cratères, plus vastes que notre planète, gémissant sans fin sous la lune blanche qui les soulève et les brasse. Des êtres aussi vastes qu'un stade et sertis de coquillages, se mouvant avec une majesté, une lenteur infinie, et dont les paroles diffusent sur plus de 1000 kilomètres sous-marins. Des mouvements d'air assez violents pour creuser des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut, des tourbillons de nuages qui battent en neige les océans depuis un tropique jusqu'à l'autre, des bancs de poissons qui se déploient dans l'épaisseur des mers, des bancs d'oiseaux virant dans un ciel d'un bleu parfait. Trim a demandé à Reine Constate quelle était la vraie couleur de la mer puisque, sur les images d'archives, elle apparaît tantôt verte et limpide, tantôt bleu sombre, aussi dense que du cobalt, tantôt turquoise ou bien grise à perte de vue, d'un gris de fer dur et aveuglant. Reine Constate a haussé les épaules et répondu.
« Kerallan, tout à la fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça dépendait de la météo, hein ?»
Trim n'a pas compris. « Moi non plus. Je sais que la mer varie quand l'éclairage change, mais je ne parviens pas à me figurer les transitions. Le bleu cobalt évolue-t-il progressivement jusqu'au vert pâle ou est-ce que le passage est brutal? En ce cas, est-ce qu'on voit une ligne de séparation comme un fil tendu ou sinueux? Trim et moi, nous sommes allés nous pencher tous deux sur l'étang. Entre deux joncs à l'envers, l'eau est couleur d'aigue marine, verdie sous la lentille d'eau et citronnée près des roseaux. Du bout d'une griffe, Trim a touché sa peau fraîche. Puis il a éternué, secoué sa patte, et il est retourné près de Reine Constate. J'ai enfin trouvé une comparaison satisfaisante. Reine Constate ne ressemble ni à un ibis, ni à une cigogne. C'est un albatros. Un vieil albatros. J'ai pourtant des compétences reconnues en reconnaissance d'image. Mais comme il ne s'agit pas d'une pure analogie de forme, j'ai mis un peu de temps à la trouver. Il s'agit d'une parenté qui implique aussi l'espace, le temps et le rôle social. Comme un albatros, Reine Constate est un fils des grandes eaux salées. Il a le front soucieux, l'œil réprobateur et le bec cruel. Il évolue avec grâce loin des contingences matérielles et se répand en plein troque et sonore pendant que les autres travaillent. Ce dernier point est humoristique. Il est de Trim. J'ai tenté de savoir où en étaient les réclamations de Reine Constate concernant son logement. Mais quand je le lui ai demandé, il s'est étouffé de colère avec une telle véhémence que je n'ai rien pu comprendre.
« Fanoskirt !»
Son étroite poitrine cache un cœur indomptable. Hélas, son crâne ne parvient pas à maîtriser cette fureur, ni à l'extérioriser en revendications cohérentes. Face à cet homme hors de lui, j'ai eu, un instant, une vision de ce qu'a pu être non pas l'humanité, mais son fer de lance dans le flanc du monde. Un guerrier enragé. Je me suis représenté un troupeau de chèvres confronté à Reine Constate, mais un Reine Constate rendu fou par la faim. Un Reine Constate jeune et armé et, surtout, nombreux. J'ai compris la raison pour laquelle les chèvres couraient si vite. Finalement, Reine Constate a bégayé tellement de gros mots en agitant ses bras interminables que je suis passé par l'office des logements de la commanderie pour en savoir plus. J'ai l'espoir de lui obtenir un logement décent à Mute. Les citadins sous lunaire sont d'habitude calmes et travailleurs. Je me demande d'où sort le caractère de celui-là. Quand Reine Constate a été un peu plus tranquille, je lui ai parlé de nouveau de sa nièce. Je n'ai pas obtenu grand-chose. Simplement, il a grinché.
« Elle est à l'orphelinat Jus, hein ?»
Et il a craché au sol. Je ne suis pas satisfaite. L'orphelinat Jus a officiellement bonne réputation, mais l'officiel ne fait pas tout. Trim ne quitte toujours pas Reine Constate d'un pouce. Pourtant, à l'écouter, il ne l'aime pas beaucoup.
« Ce grand pied a encore écrasé une de mes courgettes. Il faudrait lui scier les genoux. »
Franchement, je ne le comprends pas. Suite à la tempête, la commanderie m'a demandé d'aller inspecter le cimetière des Veilleuses. Je rappelle que celui-ci est situé dans un cratère de la famille Lalande. Car chaque grand cratère lunaire est accompagné d'une famille de cratères mineurs et de petits cratères-lets disposés en cercle autour de lui. Quand une météorite s'écrase, elle envoie autour d'elle ses morceaux. Le cimetière des Veilleuses a été implanté sur un pan d'obscurité immuable du cratère Lalande F. Il accueille les défunts non incinérés. On a ménagé au laser des fentes horizontales dans la paroi, chacune longue et large, comme un corps, et équipée d'une veilleuse. Les cérémonies funéraires se déroulent dans la chapelle bâtie au ras du gouffre. Elles sont brèves, radiation solaire oblige. Les corps sont ensuite descendus et glissés dans les fentes par palan. Plus tard, les familles viennent s'y recueillir en rappel, quand elles viennent. La conservation des défunts, absolument parfaite, est pour les citadins sous lunaire une source constante d'un effroi qui m'échappe. À la faible lumière des veilleuses, les visages apparaissent détendus, couverts d'une poudre de cristaux qui rend leur profil presque lumineux. Quelques proches ont développé, dans les premiers temps du cimetière des veilleuses, un trouble nommé le Yet Speaketh. Et pourtant, ils parlent encore. À voir leurs défunts si bien conservés, les personnes endeuillées étaient persuadées de son excellente santé. Elles avaient tendance à venir retirer subrepticement le corps de sa tombe pour le ramener chez elles. La tentative se terminait immanquablement par la chute du cadavre glacé vers les saillies en contrebas, où il se pulvérisait. Depuis, la commanderie a fait installer des sécurités. J'ai mené ma tournée d'inspection d'un bout à l'autre du cimetière des Veilleuses et je n'ai pas vu de dégâts majeurs. Il y a bien un impact au nord, mais il n'a endommagé que 3 morts qui ne parlent plus à personne. Le First Lunar Child est toujours intact dans son berceau de basalte. J'ai déposé une offrande à Endeit et Doom, la mère et la fille. Il s'agit d'une femme qui a refusé de laisser son bébé, je la cite, « seule dans le noir et le froid ». Elle s'est glissée dans la fente de basalte. Je les honore chaque fois que je passe, puisque désormais, elles dorment l'une dans les bras de l'autre. À la suite de cet incident, la commanderie a renforcé les sécurités. J'ai aussi vérifié l'état du confinement au niveau de la côte 237. Le joint est toujours parfaitement ventousé autour de la fissure. Celle-ci s'étend depuis le soubassement jusqu'à 1,12 m de hauteur. Les bottes d'entretien l'ont poncé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils y ont ensuite injecté du duraglace fondu, puis ils l'ont encore poncé et reponcé et réinjecté chaque fois qu'il le fallait. Mais elle progresse inexorablement. Les forces qui l'ont créée sont toujours à l'œuvre. Elles affrontent leurs centaines de tonnes autour de ce point faible comme deux énormes mains tordant un cristal. 7e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Ce matin de la ferme, Ren constate est resté une longue heure à contempler son reflet dans l'étang. De temps en temps, il prenait une bouffée d'oxygène dans son respirateur sans arrêter de grommeler. Je l'ai écouté, en regrettant qu'il n'ait pas l'art de la contextualisation. Les yeux plongés dans l'eau, tout glacé de vieillesse et couvert de coccinelles, il parlait par rébus. Trim me reproche de ne pas apprécier la beauté rythmique de son langage, mais j'aimerais quand même comprendre ce qu'est un chien de grand frère revenant sur Cromarty. J'ai eu l'impression que le vieil albatros déversait le contenu de sa mémoire maritime dans le seul trou d'eau qu'il avait pu trouver. Sous ce déluge de mots, l'étang n'a pas eu une ride et les oiseaux ont continué de chanter au-dessus de nos têtes. Les mots sont puissants et, pourtant, ils passent comme des ombres. J'ai peur que le processus cérébral de Ren Constat soit en fin de course. J'aurais voulu qu'avant de mourir, il nous parle de ce qu'il a vu. Les trombes et les ressacs et les courants, les dorades du flot bleu et les poissons d'or. Mais je crois que Ren Constat n'a jamais eu de talent contemplatif. Ses yeux, qui en ont tant vu, n'ont retenu que des visions de pieds mouillés, de bourses vides et de chopes de bière. Trim lui a demandé de décrire une tortue lutte, il a répondu
« Bah, Mouchouka, c'est un dermochélis sans écailles qui est ratinisé, hein ?»
Mais quoi, ça, nous le savons. C'est d'ailleurs tout ce que nous en savons. J'en suis à espérer que Ren Constat fasse un AVC qui le rende bavard. Il me raconterait les légendes de la mer, les palais sous-marins de nacre et de perles, où de fougueux hippocampes tirent des chars menés par des princes aux moustaches vertes. Je commence à me demander si je ne vais pas un peu trop loin dans ma quête de la pensée poétique. Trim et moi regardons Ren Constat comme un coffre refermé sur un trésor qui coulerait lentement en ne laissant échapper que quelques bulles. Et nos frustrations sont jumelles. 10e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. L'office des logements de la cité de Mute m'a enfin répondu. Un caisson d'habitation monoplace est à disposition de Ren Constat, au cœur même du quartier de Grunerdeuil. Il va falloir que je décide le vieux marin à redescendre. Et que je console Trim, qui ne le quitte plus. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Ren Constat. Je lui ai proposé de l'accompagner à Mute et d'en profiter pour rendre visite à sa nièce Sileki. on ne lui refusera pas de la voir puisqu'il est de sa famille. Mais Ren Constat n'a pas paru s'intéresser à mes propositions. Il est allé faire la sieste en jurant. Ren Constat est décédé dans son hamac. Je l'ai trouvé allongé sous la branche du chêne qui craquait doucement. Je vais l'inhumer au cimetière des Veilleuses ou dans le carré de sommeil de la ferme, le cimetière des premiers temps de la colonisation. Je déposerai son respirateur à sa tête et son passeport lunaire sur son cœur. L'offrande me paraît convenable. J'ai emballé le restant de ses affaires, ce qui ne fait pas gros. Il faudra que je remette le paquet à quelqu'un de sa famille. Ainsi, je n'aurai pas l'occasion, en accompagnant Ren Constat à Jus, de voir s'il est qui. Trim a l'air triste et même angoissé. Il ne ronronne plus et tourne sans fin autour du corps de Ren Constat. De temps en temps, il renifle les pieds du mort, mais je l'éloigne d'un geste. Ce n'est pas une attitude respectueuse. Moi, je veille sur ce crâne dégarni en songeant à toutes les images magnifiques qu'il renferme. Elles sont maintenant coagulées et à jamais interdites d'accès. Les écumes de fleurs, les oiseaux aux yeux blonds. J'aurais voulu lui demander ce qu'on voit quand on est plongeur et qu'on regarde vers le haut. À quoi ressemblait le toit du monde pour les poissons? Est-ce qu'il est plus ou moins bleu que le ciel? Est-ce qu'il est épais comme une vitre ou presque invisible? Est-ce qu'on voit les vagues s'enfoncer vers soi? À quoi ressemble l'envers de l'écume? Et maintenant, c'est trop tard. J'ai eu l'idée de passer par la pédagogie pour avoir des nouvelles du dossier d'apprenti horticultrice de Sileki. Par la même occasion, j'ai demandé des nouvelles de Sileki. J'ai seulement appris qu'elle va bien et que sa candidature à un poste d'apprenti horticultrice a été acceptée. Cependant, la session n'est pas encore ouverte. À considérer le comportement de Trim et l'odeur de Ren Constat, je m'étais un peu préparée à ce qui allait suivre. Comme je procédais à la toilette funéraire, j'ai touché au fond de la poche gauche du cadavre une boule de poils mauves. Ce vieux fou transportait, malgré toutes les réglementations, un minuscule rongeur dont je n'ai trouvé que les poils. Je me demande où il l'a déniché. Je suppose que la réponse se trouve dans les laboratoires clandestins de la cité de Mut. La volonté des citadins sous lunaire d'échapper à tous les règlements, même aux plus raisonnables, n'en finit pas de m'étonner. Tout prête à croire que Ren Constat nourrissait sa petite compagne en jetant, de temps à autre, quelques miettes dans sa poche. Et qu'il ne faisait pas davantage, ni pour son bien-être à elle, ni pour son hygiène à lui. Je viens de comprendre la passion de Trim pour notre hôte. Il ne me reste plus qu'à dénicher la bestiole, et vite. Un rongeur ici, c'est une catastrophe. S'il perfore un joint de sas ou d'évacuation, nous sommes morts. Les herbeaux s'y sont tous mis, les scans aussi. Ils ont fouillé chaque touffe d'herbe, chaque bosquet, chaque sillon, chaque fourré, mais bien sûr, c'est Trim qui l'a trouvé. Je l'avais prévenu. Si tu la tues, c'est le vivarium. Il l'a ramenée en la tenant délicatement dans sa gueule. Elle était un peu étourdie, mais vivante, et pas du tout blessée. J'ai immédiatement identifié une musaraigne, c'est-à-dire pas un rongeur. La musaraigne tremblait. Je l'ai caressée en sifflant des réassurances. Elle a un poil très fin, presque un duvet, mauve clair nuancé d'une buée violette, avec un museau effilé et de petites oreilles rondes. Elle n'était ni répertoriée, ni traitée, ni pucée, ni même purgée, et elle était très sale. J'y ai remédié immédiatement et j'ai séquencé son ADN. C'est bien une musaraigne cendrée femelle. Ou, comme me l'a précisé Zante, qui n'a visiblement pas reçu les mêmes consignes rédactionnelles que moi, une Sorex cinereus purpura soricini soricine. J'ai demandé à Zante s'il voulait que je ponctionne les ovaires, mais il n'a pas répondu. J'imagine qu'il est trop occupé à crier sur son équipe et à localiser le laboratoire clandestin. J'ai trouvé un sachet que j'ai attaché à mon cou et j'ai fourré la musaraigne dedans. Pour le moment, elle ne bouge pas. Trim a disparu. Il se cache dans le champ de lin. Il sait qu'il n'a pas le droit de jouer avec les autres animaux et, depuis l'épisode de la couleuvre, il s'y tient, mais parfois l'instinct parle haut. Trim a besoin de temps pour se forger une conviction. De plus, s'il a l'habitude de côtoyer les super prédateurs de la ferme, serpents, grenouilles et oiseaux, il n'est pas habitué aux soricinés. Or, les chats sont fascinés par les soricinés. Trim, j'en suis convaincue, a identifié dès le premier instant la présence d'une musaraigne vivante dans la poche de Reine Constat. Je suis toujours étonnée de découvrir son odorat meilleur que le mien. Le mien n'est pas mauvais, mais il lui manque probablement une forme primitive de motivation. La prédation. La musaraigne mauve que j'ai baptisée Campanus, pour plus de simplicité, semble peu à peu se rassurer. Elle a même accepté de sortir de son sachet à tout petit pas. Elle a de courtes pattes, aussi fines que des tiges de boutons d'or, des mains alertes aux ongles transparents, des dents aiguës d'un blanc presque bleu, de beaux yeux d'un noir de cratère, des oreilles d'aspect végétal comme de fins pétales couverts d'un duvet sombre, une longue queue et un pelage moelleux, couleur améthyste sur fond blanc avec des aigrettes rosées. J'y fais des vagues du bout du doigt. Les mammifères apprécient les caresses. Un sillon violet du crâne à la queue la coiffe d'une sorte de casquette à ruban. Une fois nourrie, Campanus s'est assise sur son derrière et s'est méthodiquement lavée. Elle a étrié son ventre pâle, léché ses quatre pattes, débarbouillé son museau jusque derrière les oreilles. Puis elle a tendu vers moi sa truffe toute ronde. Nous sommes restés nez à nez un moment. Ensuite, elle a lissé ses moustaches avec ses doigts, s'est roulée en boule et s'est endormie. Je l'ai à nouveau glissée dans le sachet que j'ai remis autour de mon cou. Je préfère la savoir là tant que je n'aurais pas eu une discussion sérieuse avec Trim. Je voulais descendre immédiatement à Mute pour remettre Campanus à Zante. Mais il m'a demandé de la garder jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé et pubère. Voilà ma visite à Mute encore retardée. Je sais qu'il n'est pas habituel de baptiser les animaux, sauf s'ils ont, comme Trim, accès au langage humain. Les animaux sont libres. Les nommer sans leur accord n'est pas correct. J'ai pourtant donné un nom à Campanus pour pouvoir m'adresser à elle pendant le temps que durera notre cohabitation. J'aurais pu lui donner un nom issu de son spectre sonore, mais je crains que multiplier les cris de musaraigne n'aide pas Trim à retrouver sa sérénité. 13e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Trim est revenu vers moi, l'air très raisonnable. Je lui ai présenté Campanus. Il a bâillé largement et écouté mes recommandations en regardant ailleurs. Si tu as besoin d'en parler, je suis là. Je peux aussi te prendre un rendez-vous avec un éthopsychologue si tu penses que je ne suis pas la bonne interlocutrice. Ça peut te permettre de faire le point.
J'aime le jeu et la chasse, a-t-il miaulé. C'est assez, il est vrai, pour faire de moi un vrai chat. Mais ce n'est pas assez pour me donner envie de finir dans un vivarium de Zante avec les griffes rognées.
Vautré sur le flanc, il me regarde en agitant doucement le bout de sa queue. Ça ne me satisfait pas. Il va falloir que je trouve une solution, car je risque de beaucoup secouer Campanus s'il faut que je l'emmène pendu à mon cou chaque fois que je donne des soins à la ferme, c'est-à-dire l'essentiel de mon temps. Les herbeaux s'en sortent très bien, mais le printemps est un moment délicat. Je tiens à me charger moi-même de certaines tâches, surtout en ce qui concerne l'antique conflit entre la glycine et le tamarinier. Si on les laisse faire, les herbeaux coupent tout ce qui dépasse et ce n'est pas la bonne solution. Je dois aussi m'occuper de la timidité de la forêt. Avec tout ce qui m'attend, il est urgent que je normalise la présence de Campanus près de Trim. J'ai choisi pour elle le statut d'animal de compagnie provisoire. Je refuse de la confiner dans mes serres, et il est hors de question que je la lâche dans la ferme comme un animal libre. Ce n'est pas pour rien que tous les lieux viabilisés de la Lune ont banni les sauricomorphes. Un écosystème qui côtoie un différentiel de 200 degrés centigrades et 1000 hectopascales ne peut pas se permettre de jouer avec ça. D'accord, les musaraignes ne sont pas des rongeurs, mais Campanus a quand même de fines dents tranchantes. Finalement, j'ai bricolé un dôme de grillage et je l'ai posé sur l'herbe. Campanus a trottiné un moment là-dessous, trouvé la mangeoire, le pot d'eau, s'est lissé les moustaches et s'est rendormi. Je peux vaquer tranquillement à mes occupations. La première d'entre elles est d'aller constater l'évolution de la fissure de la côte 237. Si elle cède, la membrane que j'ai fait poser se plaquera contre la fissure. Mais si la force qui a fendu la dalle se reporte brusquement à l'extrémité de la fissure, que celle-ci part en étoile et que la dalle se fendille complètement, ce sont des millions de mètres cubes d'atmosphère pressurisée qui viendront appuyer sur la membrane et pousser de toute leur inertie jusqu'à ce qu'elle leur cède le passage. J'ai pris la décision de faire sceller le volet protecteur à cet endroit-là. Ce sera plus sûr, mais ça ne fera que déporter le problème vers un autre point du dôme qui cédera à son tour. Je renouvelle une fois encore mon alerte. Il faut changer la dalle et découvrir l'origine de la contrainte des matériaux au plus tôt. 14e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. J'ai installé Campanus sur mon épaule pour aller travailler. Elle semble s'y plaire. Elle s'accroche de tous ses ongles au tissu et me chatouille le bas de la joue avec ses moustaches. De temps en temps, je lui donne une larve de coccinelle. Elle la saisit entre ses doigts minuscules et la croque délicatement. De temps en temps aussi, elle me pisse dessus, mais un morceau de serviette a résolu le problème. Campanus a fait connaissance avec l'établi où je m'installe pour préparer des boutures. Elle a d'abord eu du mal avec la surface vernie. Ses griffes dérapaient en tous sens et elle progressait péniblement sur le ventre, cédant de ses pattes comme d'aviron. Mais elle a vite réussi à s'adapter. Elle fait maintenant le tour de la surface en cliquetant, comme quatre ongles impatients. Craignant que Trim ne devienne jaloux, je l'ai pris sur mes genoux pour le caresser. Campanus s'est figé au beau milieu de l'établi. Elle a levé un museau frémissant. Trim a lui aussi levé la tête. Hélas, je n'ai pas pu voir le regard qu'ils ont échangé. Trim a immédiatement coulé hors de mes mains. J'ai entendu à mes pieds le ploc léger de sa chute, et je l'ai regardé s'éloigner, la queue dressée à la verticale. Quand il me montre ainsi son anus, c'est signe de contrariété. 16e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Alerte de sécurité. Malgré l'aube solaire, la côte 237 tient toujours. Mais alerte aussi. Je me demande si je ne m'en fais pas trop pour la sécurité de cette bestiole. Trim est vif, mais Campanus est d'une rapidité encore plus grande. Après m'avoir volé un chaton de saule, elle s'est postée à l'autre bout de l'établi et m'a regardée en remuant du nez avant de grignoter son butin. J'ai fait le tour de l'établi pour récupérer mon bien. Campanus a paru mesurer la distance et même l'amplitude de mes gestes. Elle s'est repositionnée pour que je ne puisse pas l'atteindre. Elle procède par écholocalisation, je pense, car sa vision est mauvaise, surtout de loin. Du moins, les musaraignes l'ont mauvaise. J'ai abandonné l'idée de récupérer le chaton de saule et je me suis rassise. Campanus a tranquillement fini de manger, puis elle est venue à petits pas chercher une caresse ou un autre chaton de saule. Ce qui est étrange, car elle n'est pas censée être massivement herbivore. Mais comment savoir avec tous ces tripotages génétiques dans les laboratoires? Une musaraigne n'est pas non plus censée être mauve, m'a assuré Zante. Bref, Campanus a obtenu les deux, et le câlin, et le chaton. Vautré de tout son long sur un tabouret à quelque distance, Trim cligne lentement des yeux et bâille. Il a son air dégoûté, je le comprends.
On n'éduque personne en récompensant le vol, a-t-il ronronné.
Mais je ne peux pas rêver d'instruire aussi bien que toi un animal qui a 2 grammes de cerveau en été et encore moins en hiver.
Peut-être, mais le néocortex occupe 20% de ces 2 grammes. Ça fait beaucoup pour une imbécile.
J'ai enfin eu des nouvelles de Sileki. J'ai simplement demandé à entrer en contact avec elle pour lui annoncer le décès de son oncle Ren Constat. Et l'orphelinat Jus a accepté. Je l'ai vue en direct, elle m'a paru amaigrie. Mais elle n'a pas d'ecchymose visible et s'est montrée plus bavarde qu'avant. Plus raide aussi. Elle m'a parlé avec nostalgie de nos parties d'herborisation. Elle m'a demandé quand elle commencerait son apprentissage. Elle a pris des nouvelles des vivaces de la ferme Lalande, notamment un laurier sauce pour lequel elle a une grande affection.
Il a bien supporté l'hiver ?
Oui, chaque laurier sauce a sa sensibilité face à l'hiver, et celui-ci aime bien le froid. Il a gardé toutes ses feuilles.
Et il sent bon ? S'il sent bon, c'est qu'il va bien. C'est son rire à lui, il me l'a expliqué.
J'ai tenté de savoir si elle était heureuse à l'orphelinat Jus, mais elle n'a rien voulu dire. Ce « rien » ne me semble pas de bon augure. Était-ce dû au réglage de la transmission ? J'ai trouvé son regard plus terne que dans mon souvenir. Je me tiens à disposition pour lui porter le petit paquet d'affaires laissé par Ren Constat. Après tout, ce paquet doit revenir à un membre de sa famille, et Sileki en fait partie. Je descendrai à Mut avec mon paquet sitôt que Campanus sera en état de rejoindre les vivariums de Zante. En attendant, je vais plâter le tulipier. Très peu, je vais simplement rabattre sa ramure. Et les ligneuses, qui, elles aussi, ont leurs soucis d'élongation. J'ai demandé à ce que Sileki devienne mon apprenti de façon anticipée, mais le principe n'a pas été accepté, ni par la pédagogie de Mut, ni par l'orphelinat Jus. 18e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Trim ne se déridant pas en présence de Campanus, je suis allée jusqu'à lui expliquer que les musaraignes ont mauvais goût et que certaines sont venimeuses. Je laisse pour le moment l'information diffusée dans sa conscience et au-delà. Je ne me trompe pas sur ses fréquents bâillements. Il ne s'agit ni d'ennui ni de fatigue. C'est la chasse qui le tenaille. Il sursaute dans ses rêves, mange peu et parle encore moins. Il faudra pourtant bien qu'il se fasse à la présence de Campanus. La lune n'est pas un endroit où l'on peut se laisser aller à être soi-même. Campanus, de son côté, révèle un caractère affirmé au fur et à mesure qu'elle grandit. Elle réclame sans cesse à manger, ce qui est normal étant donné son métabolisme élevé. Mais elle le fait avec des cris très stridents et ça me gêne, puisqu'elle passe l'essentiel de son temps près de mon oreille. À ce détail sonore près, Campanus et moi nous entendons bien. Quand je tourne la tête de son côté, elle pose sur ma joue la pointe fraîche de son museau et ses moustaches me chatouillent. Dès que je tends une main vers un plan, elle dévale jusqu'à mon poignet et je vois la lumière se diluer en rose dans la peau très fine de ses oreilles. Campanus sera bientôt nubile et je pourrai descendre à Mut pour la remettre à Zante. En attendant, elle profite de ce que je divise les vivaces à deux mains pour filer comme un météore le long de mes bras. Car elle a vite appris à courir d'une épaule à l'autre en me griffant la nuque au passage, ce qui lui permet de me casser les deux oreilles. Ce n'est pas la première fois que je m'occupe d'un petit isolé. Et c'est la première fois qu'une succession d'anecdotes me paraît raconter une histoire dont je ne connais pas la chute. Je suis certaine que Sileki saurait écouter Campanus, la comprendre et me raconter. Il faut que je les présente l'une à l'autre. 22e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Campanus est maintenant tout à fait à son aise sur l'établi. Elle s'y déplace avec une grâce dansante, sautant par-dessus les serfouettes. Elle vient près de moi, tendant son crâne fin pour que je la caresse. Je lui offre une graine de betterave qu'elle presse entre ses deux mains. Elle s'assoit alors pour manger, en enroulant sa queue autour de ses pattes avec une majesté bien plus grande qu'elle. Elle se frotte ensuite le ventre et lâche un petit cri de remerciement. Il est beaucoup moins aigu que ceux qu'elle emploie pour réclamer. Ça prouve qu'elle est tout à fait capable de s'exprimer avec mesure quand elle le veut. Dès qu'elle trouve quelque chose qui lui plaît, elle le tourne et le retourne, le goûte, le retourne encore, comme si elle voulait apprendre sa forme par cœur. Inutile alors d'essayer de la caresser. Elle n'accepte ce genre de familiarité qu'à son heure. Si j'insiste, elle saute hors de portée et me regarde en haussant le menton comme une reine offensée. Trim semble s'être enfin habitué à sa présence. Il a repris du poids et son sommeil est redevenu calme. Parfois, Campanus regarde dans sa direction et pousse des couinements aigus qui font pivoter ses oreilles sensibles de chat. Mais il bâille et l'ignore superbement. Personne ne peut ignorer plus superbement que Trim, et l'altière musaraigne elle-même doit s'y faire. 26e jour du 3e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Comme nous revenions d'inspecter le confinement de la côte 237, nous nous sommes fait surprendre par le crépuscule de la ferme. Nous étions tous les trois, Trim sur mes talons, Campanus sur mon épaule, au cœur de la forêt. Dehors, le soleil déversait toujours sa lumière limpide sur le dos nu de la planète. Mais sous le dôme, bien à l'abri derrière les lourds volets occultants, l'éclairage diurne commençait à faiblir. C'est un moment particulier. Une buée fraîche monte de l'humus, dilue les couleurs et brouille les perspectives. Nous sommes passés par l'orangeraie. Les bourgeons encore très petits, d'un vert vif, perdaient leur brillant et se fondaient doucement dans le feuillage. La source, qu'on n'apercevait plus dans l'herbe, murmurait d'une voix qui semblait plus haute maintenant que les oiseaux s'étaient tus. Sous la pluie du saule, les grenouilles commençaient à chanter à mi-voix. Trim et moi marchions en faisant le moins de bruit possible pour ne pas troubler le sommeil qui s'installait. Sur mon épaule, Campanus ne bougeait plus. Nous nous sommes guidés en suivant les bruissements du chèvrefeuille tout autour du basalte. On ne distinguait qu'à peine sa silhouette pansue. Le chemin m'a paru étrangement plus long que d'habitude. Cette façon qu'a la nuit montante de métamorphoser le connu en inconnu, de fausser les distances et les points de vue, est pleine d'intérêt pour moi. En gagnant des mots, il me semble que j'ai gagné aussi des images, ou du moins la capacité de mieux regarder. Ces nouvelles images entraînent elles-mêmes des impressions neuves et le tout compose des récits. Je me demande jusqu'où cela va. Sileki a profité d'un congé chez son père pour m'envoyer un message confus. Elle s'est contentée de se planter devant un objectif et a prononcé toutes sortes de phrases sans en terminer une seule. De plus, comme elle n'est pas très familière avec la notion de chant, je n'aperçois le plus souvent que le sommet de sa tête ou une narine. Le résultat est tout à fait décousu. S'il fallait faire un résumé, il tiendrait en peu de mots.
« Je sais que je te manque. Je pourrais venir te voir, mais tu me nettoierais cruellement, comme la fois où je suis sortie au clair de terre pour voir mes yeux pétiller. Je sais que tu vas revenir parce que je te manque, et aussi à Trim. »
Cet anthropomorphisme est de son âge. Mais ce qui me pose problème, c'est que son père n'apparaît pas une fois, même en arrière-plan. Il n'a pas pris soin de jeter un coup d'œil à ce montage désastreux pour le rendre un peu plus propre, ni au nez de Sileki pour le même résultat. Quant à elle, elle est maigre, sale et solitaire. Sa confusion ressemble à une maladie nerveuse ou à une grande détresse morale. Je me permets de faire un autre signalement. Faute de réponse rapide à ce énième signalement, j'irai voir moi-même de quoi il retourne à l'orphelinat Jus. Le paquet de rennes constate me servira de sauf-conduit. Campanus s'est à nouveau enfui dans le potager. Je l'ai traqué grâce à sa puce, mais Trim l'a ramené avant. Elle pendait de sa gueule, pétrifiée et tremblante. Trim l'a déposée devant moi avec une délicatesse exquise. Mais j'ai bien vu qu'il respirait profondément et que tous ses muscles étaient tendus. J'ai ausculté Campanus. Les dents de Trim s'étaient enfoncées un tout petit peu dans la peau fragile de sa nuque. Un tout petit peu, mais jusqu'au sang. J'ai regardé Trim dans les yeux, il s'est détourné. J'ai soigné la blessure de Campanus. Ce n'est rien, sinon la plus belle frousse de sa vie. Ça ne me satisfait pas du tout. J'ai dit tout haut. Tu sais ce que tu risques. Je n'ai obtenu aucune réponse, mais je suis certaine que Trim m'a très bien entendu. J'ai reçu la visite de trois citadins sous-lunaires. On ne m'avait pas prévenu qu'il s'agissait de décongeler. Il est intimidant de rencontrer des gens qui sont nés à l'époque où les États-Unis d'Amérique étaient une nation florissante, dirigée par des vieillards de moins de 100 ans. Hélas, les processus de décongélation étant ce qu'ils sont, les facultés cognitives de mes trois autres sont si abîmées que j'ai toujours peur que l'un d'entre eux tombe dans l'étang et se noie. Ils ne paraissent reconnaître ni les oiseaux ni les plantes. Mais quand je les ai fait monter à l'observatoire, ils sont restés longtemps à contempler la Terre, bleue au-dessus de la mer blanche. Parmi le balai des étoiles et la marche éclatante du soleil, la Terre est le seul repère fixe de notre dôme de ciel noir, immuablement croissante et décroissante, virant sur elle-même et oscillant dans sa libration. On voyait autrefois dans sa zone obscure briller des lumières qui ressemblaient à des constellations. Quand les décongelés sont partis, je me suis demandé ce qui pouvait subsister de la Terre chez ces trois-là. Je veux dire, dans leur esprit. Quelques images, des parfums, peut-être rien. Ils la regardent quand elle est au-dessus de leur tête et pourtant, c'est bien la seule vision de la Terre qu'ils ne pouvaient pas avoir du temps où ils vivaient dessus. J'ai brusquement fait une association d'idées. Est-ce une image de la Lune qu'ils ont cru voir? Est-ce le souvenir du clair de Lune qui se lève au fond des brumes de leur quasi-absence? J'espère en tout cas que cette sortie leur aura fait du bien. Il est important qu'une société prenne soin de ses désorientés. J'ai commencé à aménager une rocaille dans l'alcôve ouest. J'y plante de la fume-terre pour mes infusions et des fougères. Je tente aussi la bruyère vagabonde. Ce sera un lieu agréable pour la sieste de mes visiteurs, et je compte y maintenir quelques degrés de plus que dans le reste de la ferme, pour Trim. De plus, le plafond rocheux de cette alcôve protégera mes hôtes de l'essentiel des vents solaires. Sileki y sera à l'aise pour causer aux escargots. Les débuts de son apprentissage sont imminents et j'ai besoin d'elle pour les framboisiers. 29e jour du 3e mois de l'an 2325, cité de Mute. Depuis peu, Campanus est devenue intenable. Elle se livre à des danses folles sur l'établi. Je suppose que le rut la tient. Elle a atteint la puberté et a besoin de socialiser. Trim suit son manège avec une indifférence mal jouée. Je vois son échine se hérisser par vagues. Il est grand temps que je descende à Mute pour confier Campanus à Zante. J'allais mettre Campanus dans son sachet quand elle a sauté sur Trim, sauté depuis l'établi, droit sur lui, griffe en avant. Trim a levé la patte et l'a littéralement écrasée contre l'établi. Mais délicatement écrasée, comme seuls les chats savent le faire. Il m'a regardé, je l'ai regardé, ses moustaches tremblaient. Il a soulevé sa patte tout doucement. J'ai attrapé Campanus qui n'en menait pas large. Je l'ai mise dans son sachet et j'ai accroché le sachet à mon cou. En chemin vers Mute, je me suis dit que j'avais la satisfaction que, au bout du compte, Trim ne l'ait pas tué. Zante l'a prise délicatement dans sa main. Pourtant, Campanus a paniqué. Je sais comprendre ses cris désormais. Elle s'est calmée à mon contact. J'ai aidé Zante à mener son train d'observation, poids, température. Puis Zante a glissé Campanus dans un vivarium et je l'ai regardé longtemps. Elle a d'abord beaucoup tremblé, ramassée sur elle-même, le museau au ras de la mousse. Puis elle a flairé alentour, lissé ses moustaches et s'est endormie sur place, dans le berceau de sa queue enroulée. Elle a posé comme d'habitude sa tête sur sa patte droite et a refermé ses grands yeux sombres. Zante a commenté. Elle a remarquablement peu d'instinct de blottissage, cette petite. Puis il a parlé d'amygdale et d'hyperventilation, mais j'ai banni les détails techniques de mes rapports depuis qu'on me l'a demandé. Zante a conclu. Heureusement pour elle, il n'y a pas de prédateur ici. Pas à moins de plusieurs épaisseurs de dur à glace. J'ai continué à regarder Campanus qui a continué à dormir. Elle a fini par se réveiller. Elle a reniflé un petit peu à gauche, un petit peu à droite, s'est glissée sous une écorce et n'est pas réapparue. Quand je me suis retournée, j'ai constaté que Zante aussi était partie. J'ai mis le paquet de reine constate sous mon bras et je suis allée à l'orphelinat Jus.